Alors, bonjour tout le monde. J'ose même, si vous me le permettez, dire bonjour, mes bien-aimés. Parce que bien-aimé, c'est un mot que j'aime beaucoup, puis c'est des paroles qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, puis je trouve que c'est empreint d'amour, c'est empreint de tendresse, et puis j'utilise ça pour les gens particulièrement que j'aime beaucoup. Puis là, ben vous en faites partie. Ça fait que je veux vous dire que je suis vraiment contente que vous soyez ici, puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous que je ne connais pas. Et puis, lorsque j'utilise « bien-aimé », c'est pour dire aux gens que je les aime. Puis, pour ceux que je ne connais pas, bien, je veux vous dire quand même que je vous aime. Parce que si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous cherchez le Seigneur. Puis, le Seigneur vous aime, puis le Seigneur va vous guider, puis va vous protéger. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous appelle mes bien-aimés. Je vous aime, puis soyez les bienvenus parmi nous. Puis, je vous remercie aussi de votre présence, surtout. Alors, mon nom, c'est Claudette Néron. Durand, c'est mon nom de famille. Je suis mariée depuis 38 ans, mère de 3 belles filles, grand-mère de 5 merveilleux petits-enfants. Puis mes petits-enfants, je peux vous dire que ça, c'est une bénédiction de Dieu. Ils me rendent tellement heureuse, là. Je suis tellement contente que le Seigneur les ait placés dans ma vie. Et puis, je suis retraitée depuis janvier 2009. Alors, je suis membre de l'Église baptiste évangélique de Beauport depuis l'an 2000, année où j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel, puis où j'ai été aussi baptisée en témoignage de ma foi. J'ai été baptisée par immersion, je tiens bien à le souligner. Alors, il y a 9 mois, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dévoiler une partie intime de ma vie, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, parce que je suis assez discrète sur ma vie personnelle. Puis, j'aime pas beaucoup retourner en arrière puis fouiller dans le passé, parce que ça fait ressurgir souvent des vieilles blessures. Puis, je vous cacherai pas que depuis 9 mois, là, et que ça a grouillé là-dedans. Alors, je suis une personne qui regarde en avant, surtout depuis que je connais le Seigneur. Puis, quand on m'a demandé pour présenter mon témoignage il y a 9 mois, j'ai refusé. Je vous avoue franchement, j'ai refusé. Je vous l'avoue bien honnêtement. Mais je suis revenue sur ma décision après des nuits d'insomnie et de prière. Parce que j'ai prié Dieu pour qu'il me dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et puis, je suis revenue sur ma décision parce qu'il y avait toujours une petite voix en dedans de moi qui me disait, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Alors, puis il y avait aussi un verset qui me parlait beaucoup de l'Évangile de Matthieu qui dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors, j'ai décidé d'obéir au Seigneur, sachant que Dieu s'intéresse à notre foi et à notre obéissance, pas seulement à nos bonnes intentions. Vous m'excuserez, j'ai un texte écrit parce que je suis remplie d'émotions, puis j'avais peur de divaguer, là, puis de me promener d'un sujet à l'autre. Alors, je me suis dit, un texte. Alors, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à accomplir sa volonté en me soufflant les mots appropriés et en guidant ma main pour la rédaction, parce que je l'ai écrit. Alors, Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Alors, je lui ai demandé, façonne-moi, puis fais de moi, ô Dieu, ce que tu veux. Alors, mon témoignage se veut à la fois l'histoire d'une partie de ma vie et de celle de mon père. Fait que là, j'ai un paquet de Kleenex, surprenez-vous pas, si à des moments donnés, je suis obligée de les sortir, il y a des bonnes chances que j'en arrive à ça. Parce que pour moi, l'une ne va pas sans l'autre pour vous expliquer ma conversion. L'élément déclencheur de ma conversion a d'ailleurs été le décès de papa en octobre 1998. Le Seigneur m'a prouvé son amour, sa puissance et sa grâce et m'a tendu une corde en se servant de mon père pour me faire comprendre la façon d'obtenir son merveilleux salut indispensable pour le ciel. Bref, je suis née à Québec en 1947. Fait que pour vous éviter de compter, j'ai 62 ans. Un an après le retour de mon père de la guerre en Europe, où il a combattu pendant 3 ans. Il en a ramené, comme plusieurs soldats d'ailleurs, un souvenir amer qui l'a suivi et déchiré jusqu'à l'âge de 50 ans. Un très grave problème d'alcool qui a fortement ébranlé sa vie et une partie de la mienne. Le syndrome post-traumatique ne semblait pas être traité à l'époque. Cependant, comme il n'arrive jamais rien pour rien, le Seigneur m'a appris à travers cette épreuve et au fil du temps, et non sans difficulté, à comprendre et à accepter plusieurs choses que je ne pouvais changer, m'a donné le courage de changer certaines choses que je pouvais changer, puis m'a appris à en connaître la différence. C'est loin d'être évident, mais avec Dieu, tout est possible. Alors voici donc comment le Seigneur a touché mon cœur. Quelques jours après ma naissance, j'ai été baptisée à l'Église, à l'Église catholique par obligation et non par choix. Le baptême étant synonyme du salut de l'âme indispensable pour aller au ciel. Mes parents étaient catholiques à l'époque, mais non pratiquants. Ils se sont convertis au vrai christianisme en 1968 en appuyant leur foi sur la personne et les enseignements de Jésus-Christ plutôt que des sacrements imposés par une église. Ils croyaient en Dieu, mais mon père était particulièrement rebelle à tout ce qui se rapportait au clergé et à leurs pratiques, croyances dont j'ai hérité. Comme la majorité des enfants québécois, j'ai fréquenté les écoles catholiques où l'on m'a appris l'existence de Dieu, la naissance, les miracles et la mort de Jésus, en utilisant le petit catéchisme comme manuel d'enseignement plutôt que la Bible, qui ne faisait pas partie des manuels scolaires. Pourtant, le christianisme puise toutes ses doctrines dans la Bible et le vrai chrétien ne cherche ni à retrancher ni à ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. À l'époque, la lecture de la Bible semblait exiger un certain niveau d'intelligence et semblait être réservé aux personnes de haut niveau académique ou encore aux membres du clergé. Certaines familles avaient des Bibles, mais ne semblaient pas la lire. C'est là aussi qu'on m'a enseigné, à l'école catholique, à me soumettre à l'autorité et l'infaillibilité du pape en matière de croyances, d'opinions ou de principes et de morale. C'est là surtout que je ressemble le plus à mon père, qui était la copie conforme d'un de nos personnages bibliques, Mardoché, qui refusait de se prosterner devant personne d'autre que Dieu. On a beaucoup insisté sur les différentes sortes de péchés, avec le péché véniel, le péché mortel, leurs conséquences, et surtout sur la façon d'en obtenir le pardon, qui se résumait à confesser nos fautes à un prêtre, qui seul avait le pouvoir de nous les pardonner après nous avoir imposé une pénitence. J'avais donc à laisser passer pour le confessionnal, que j'utilisais régulièrement, même quand je mangeais de la viande le vendredi, car j'avais une peur bleue de mourir en état de péché, surtout le péché mortel, parce que c'était l'enfer qui m'attendait. D'ailleurs, je n'étais pas la seule. La plupart des gens qui m'entouraient avaient peur de la mort et surtout de la fin du monde. Et pour obtenir le pardon total ou partiel, là, des peines imposées pour des péchés déjà pardonnés, là, c'était le prêtre qui nous imposait des peines, là, on nous enseignait à amasser des indulgences. Ben, j'en tenais quasiment une comptabilité. Que d'années perdues à croire aveuglément aux enseignements d'hommes et de femmes en qui nous avions une confiance absolue et à nous sentir coupables au point d'avoir peur de Dieu, qui est pourtant un Dieu d'amour. Il aurait été si simple de nous enseigner les vraies choses. Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, puis la seule manière d'être sauvé. J'ai prié pendant des années pour la guérison de mon père, car la vie était très difficile à la maison et je ne voyais pas le bout du tunnel. Tous ces problèmes reliés à la consommation d'alcool retombaient sur la famille et nous en étions tous très malheureux, lui surtout. Le climat était très malsain et destructeur. La bouteille était au contrôle de sa vie, détruisant le père que j'admirais lorsqu'il était à jeun. Puis là, quand je vous dis là, que malheureusement, papa, il y avait vraiment des gros problèmes, c'était pas ordinaire, là. Écoutez, je me souviens, moi, d'une fois, entre autres, j'étais toute petite, puis ça me revient à la mémoire, là. Il avait fait une crise de délirium. Et puis, je vous dis que ça revolait, là. Ça sortait chez nous, là. À l'époque, on demeurait dans un deuxième étage. Puis, je me rappelle que le tapis avait revolé, là. J'avais eu tellement peur, j'étais allée me cacher en dessous du lit. En tout cas, fait que c'est des moments, quand je vous dis qu'à un moment donné, là, l'alcool, ça détruit quelqu'un, je l'ai vécu, puis oh, que je souhaite pas ça à personne là, de vivre ça. Alors, puis sa présence et son amour m'ont manqué terriblement. Et je peux vous certifier que cette terrible maladie m'a volé une partie de mon enfance. J'ai grandi à plusieurs endroits. En fait, je me souviens de déménager au moins 9 fois de ma naissance jusqu'au moment où papa a acheté la maison. Inutile de vous dire qu'on n'avait pas le temps de se faire des amis, parce qu'aussitôt que j'avais une amie puis que je commençais à lier des liens profonds avec elle, ben on retombait dans les bagages, on retombait dans les valises, puis on déménageait. Fait que la stabilité, là. Alors, puis je sais pas non plus si c'est comme ça, par exemple. Il y a toujours un effet positif, là. Je sais pas si c'est là que j'ai développé le goût de la découverte puis des voyages. Mais en tout cas, une chose certaine, j'ai appris à m'adapter. Fait que ça, c'est le volet positif. Alors, papa avait 50 ans et j'en avais 14 lorsqu'il est devenu sobre. C'est avec l'aide des alcooliques anonymes qu'il s'en est sorti. Il est devenu un adepte de ce mouvement en devenant conférencier, ce qui l'obligeait à s'absenter très, très, très souvent. Il était toujours disponible pour répondre aux appels de détresse ou pour visiter quiconque avait besoin d'aide. Je ne sais combien de fois j'ai dû céder mon lit à des gens recueillis à la maison. Puis savez-vous, je lisais dans la Bible qu'à un moment donné, peut-être qu'on a accueilli des anges à la maison, je ne sais pas, mais il a passé du monde chez nous. Puis mon matelas, là, je vous dis que je l'ai prêté, puis pas à peu près. Mais je suis contente quand même parce que ça m'a appris l'hospitalité, ça m'a appris l'amour, ça m'a appris d'être proche des gens, puis d'être à l'écoute. Puis il n'y arrive jamais rien pour rien. Alors, le Seigneur avait entendu ma prière en permettant que mon père abandonne l'alcool, mais j'avais dû oublier de lui demander qu'il soit plus présent pour notre famille. Puis, c'est drôle, cette semaine, je lisais dans Timothée, mon Dieu, je ne sais pas si c'est Timothée 5, le verset 6, là, qu'il fallait être présent pour notre famille, puis prendre soin de notre famille, puis je peux vous dire une chose, si papa avait été chrétien à l'époque, là, j'aurais jamais vécu ce que j'ai vécu là. Parce que pour l'avoir connu, là, après qu'il soit devenu chrétien, sa vie a totalement changé. Et puis, c'est ça. Fait que je suis certaine que si à l'époque il avait connu Timothée, le comportement aurait été très différent. Alors, le Seigneur avait d'autres plans pour lui. Les choses n'ont donc pas changé en ce sens, en ce qui me concerne. Et ce père manquant, avec qui j'aurais aimé tant partager mes résultats scolaires, quelques loisirs, mes inquiétudes et mes joies, était pratiquement toujours parti ou occupé à aider quelqu'un. Fait que je me sentais un peu orpheline de père, là. Mais là, un jour, sont apparus à la maison Jessica, avec son beau grand chapeau, pour ceux qui la connaissent, ou qui l'ont connue malheureusement, Kay et Rose, qui sentaient toujours bon. Oh, ce que je trouvais que cet homme-là sentait bon, là. Ces trois missionnaires et pionniers de l'implantation de la première église baptiste évangélique à Beauport. Là, il y a des gens un petit peu plus âgés que moi ici, là, puis qui les ont connus très bien. J'espère que je me trompe pas, mais je pense que ça a été les premiers à Beauport. Puis ce sont eux qui ont fait connaître le Seigneur à mes parents. Je les voyais apparaître régulièrement à la maison avec leur Bible en main. Je les trouvais bien étranges. Puis leur attitude m'intriguait. C'était très particulier de les voir étudier la Bible et prier autour de la table en compagnie de papa puis maman. Je sentais en eux un amour profond pour le Christ puis une joie à en parler avec conviction et assurance. Je me rappelle aussi l'entêtement de mon père à vouloir me transmettre la parole de Dieu. Puis pas juste à moi, là, à tout son entourage, mais particulièrement à ses enfants, c'est certain. Cependant, ça me dérangeait. Et je n'étais pas prête à abandonner les plaisirs éphémères auxquels je goûtais. Mon esprit était fermé à tout ce qui pouvait contredire mes opinions. Alors, vous savez, à un moment donné, j'étais dans une période de l'adolescence. Vous savez ce que c'est. On traverse toutes des périodes de questionnement. On remet en question bien des conseils qui nous sont donnés. On les accepte pas tout le temps. Ça fait que j'étais très rebelle. Alors, j'aimais bien Jessica, Kay et Bruce, mais pas au point d'embarquer dans leur religion. Je sais pourtant aujourd'hui que c'est pas la religion qui sauve, c'est Christ. C'était l'époque des Beatles, du Peace and Love, de la liberté. Et j'étais rebelle à tout ce qui pouvait m'empêcher de profiter des plaisirs de la vie. J'avais une admiration profonde pour eux et le courage... j'étais fière de la persévérance, la détermination et le courage de mon père, celui-ci faisant l'objet de moqueries et étant souvent la risée des gens auxquels je me joignais. J'ai cherché désespérément l'amour pendant des années et j'en ai payé le prix. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a lancé une bouée. Un homme qui a su remplir le vide de mon cœur et avec qui je partage ma vie depuis 38 ans. Pour en revenir à mon père, la distance qui s'est installée entre nous pendant des années en raison de ma conduite et de mes égarements a fait en sorte qu'il a dû patienter jusqu'au dernier moment de sa vie pour que nous puissions ensemble partager certains textes de la parole de Dieu. Je me souviens qu'il me disait souvent que le Seigneur avait dû l'oublier, puis que lui, il était prêt à partir. Puis je lui répondais, sans en soupçonner la raison, qu'il devait avoir besoin encore de lui sur la terre. Je pense bien, c'est à moi. Deux mois avant son décès, survenu en octobre 1998, il a été hospitalisé à l'Hôpital général de Québec où je travaillais. Ce fut la plus belle période de ma vie avec mon père. Nous étions devenus complices, croyez-le ou non, et nous sommes tombés en amour. Oui, on peut tomber en amour avec son père. Et on est tombé en amour, mais après s'être pardonné. On s'est dit des choses, on s'est mis la pendule à l'heure, puis j'étais bien consciente que j'avais des torts, j'avais énormément de torts. C'est facile pour moi aujourd'hui, vous savez, de condamner. Puis je le condamne pas, là, pas du tout, là. Même que j'ai hésité énormément avant de vous parler de ça, là. Mais à un moment donné, là, on s'est assis un en face de l'autre, puis on s'est demandé pardon. Lui, d'abord, il m'a demandé pardon, puis je l'ai senti d'un cœur sincère pour ce qu'il avait pu me faire endurer pendant des années. Puis je lui ai demandé pardon, moi aussi, de ne pas l'avoir écouté, premièrement. Parce que j'étais têtue. Puis là, je voulais plus rien entendre. J'étais fermée à tout, là, moi, là, dans mon enfance puis dans mon adolescence. Mais on s'est pardonné, puis d'un cœur sincère. Puis là, je l'ai senti qu'il m'aimait. Je pouvais être sûre de ça. Puis je l'ai aimé aussi. Puis même avant, même quand j'ai souffert pendant mon enfance, j'ai aimé cet homme-là. Je peux pas vous dire. C'est étrange parce que quand il était sobre, là, je le trouvais tellement brillant. Là. Puis il était renseigné sur toutes sortes de choses, puis il nous apprenait des choses. C'est pour ça que je vous dis que ça m'a manqué terriblement dans le temps qu'il était alcoolique, parce que j'aurais tellement aimé ça. Là. Je regarde en particulier quand j'avais des travaux d'anglais. L'anglais, moi, c'est toujours une langue qui je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé l'anglais. Puis j'aurais donc aimé ça devenir bilingue. Mais là, je ne sais pas, je ne suis pas bilingue, là, je parle comme une vache espagnole. Mais puis papa était parfaitement bilingue. Quand arrivaient mes travaux d'anglais, est-ce que j'aurais aimé ça qu'on s'assoie ensemble puis te dire, hey, envoie le papa là, ça, comment tu écris ça, ça? Ben comment tu prononces ça là, tu sais? Mais c'est ça, il était pas là. Fait en tout cas. Mais là, au moins, ben on là-dessus, tu sais, je veux dire. On s'est donné des beaux becs, puis on s'est serré, puis je suis contente. Alors, si vous saviez comment je suis contente d'avoir vécu cette période-là, là, avant son décès, là. Alors, je le visitais régulièrement, dès que j'avais une petite minute. Je voulais rattraper le temps perdu, parce que je savais qu'il n'y en avait plus pour longtemps, puis je savais que papa était sur le point de mourir. Alors, je tentais de lui faire plaisir en lui lisant l'Évangile de Jean, sachant que c'était son apôtre préféré. Je lisais toutefois sans m'attarder au texte et sans le comprendre, là. Ce qui m'amène à dire que la Bible ne se lit pas comme un autre livre et qu'on peut connaître énormément de choses sur Dieu sans connaître grand-chose de lui. Quelques jours avant sa mort, un soir en le quittant, il m'a chuchoté à l'oreille quelques paroles tirées de l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. Aie la foi. Je lui ai fait répéter à trois reprises parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il parlait quasiment plus, là. Il avait de la misère à s'exprimer. Je reconnaissais la ténacité de mon père à vouloir me faire connaître son sauveur. Il était mourant, puis il lâchait pas. Ce sont les dernières paroles qu'il m'a adressées. Il a été transféré le lendemain dans une chambre réservée aux mourants, où il est décédé trois jours plus tard. C'est le jour de son décès que le Seigneur m'a touchée. Dans la chambre, tout respirait la paix, la sérénité, l'amour. Et cette mort qui me faisait tant peur m'est apparue comme l'ultime récompense de celui qui a combattu le bon combat. Il est mort en fidèle soldat de Christ. J'ai senti puis j'ai vu l'amour de Christ à travers lui. J'ai aussi compris à quel point il avait dû souffrir. Après son décès, j'ai réalisé que ma date d'expiration approchait, car le psaume 139 le dit bien. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » J'ai décidé d'investir dans ma vie spirituelle par des placements sûrs, à taux fixe plutôt qu'à rendement variable. Je me suis mise à fréquenter l'Église baptiste, ayant été fortement touchée par les témoignages d'amour et de réconfort manifestés à la famille par mes sœurs et frères chrétiens lors du décès de papa. Je voulais surtout découvrir les raisons pour lesquelles mes parents avaient toujours tenu ferme et n'avaient jamais abandonné leur foi. Puis je frissonnais aussi à la lecture d'un verset biblique qui dit « Après la mort vient le jugement. Aïe, ça, là. Ouh. Alors, les études bibliques, la prière et les encouragements de mes frères et sœurs chrétiens m'ont grandement fortifié. Et c'est en cherchant le Seigneur de tout mon cœur. Et à force de lire la Bible, ce merveilleux best-seller qui contient tout ce dont l'homme a besoin pour remplir le vide de son âme, résoudre ses problèmes et sortir de ses dilemmes, que j'ai compris la signification des mots « foi » et « salut ». C'est aussi pour ça aussi que je trouve tellement important que nos enfants, nos petits-enfants, soient enseignés dès leur bas âge pour leur éviter justement de marcher tout croche. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Là. Il y a tout ce qu'il faut. Le Seigneur nous renseigne qu'on ait besoin d'encouragement. C'est rempli de promesses, ce livre-là. Puis moi, je peux vous dire qu'en tout cas, c'est mon guide. Heureusement que je l'ai. Alors, j'en étais rendue à la foi. Ben là, tous les mortels vont me dire qu'avoir la foi, c'est croire en quelque chose. Puis c'est bien vrai. Mais la foi vient de ce que nous entendons. Puis ça, c'est la Bible qui le dit. J'ai lu dans une publication chrétienne, Notre pain quotidien, que les croyances sont à l'origine de tout ce que nous faisons et que ces croyances peuvent être illogiques et aveuglément liées à nos désirs, mais elles alimentent et façonnent constamment ce que nous faisons. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous devons accorder la plus haute priorité à ce que nous croyons et pourquoi. J'ai réalisé que ma foi était basée sur mes propres forces, sur mon orgueil et mes désirs, et que je devais plutôt rechercher la foi en Christ et croire en l'invisible. La Bible nous décrit la foi dans Hébreux 11:1 comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 11:3 nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec persévérance. Puis ça, c'est dans Romains 7, les versets 24-25. Avoir la foi signifie s'abandonner, capituler, se rendre, d'après Billy Graham, le plus grand évangéliste de notre temps. La foi est une confiance totale et absolue. La Bible enseigne aussi que la foi est le seul accès auprès de Dieu. Et répète sans cesse que nous ne pouvons obtenir le salut que par grâce, par le moyen de la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est dans Actes, chapitre 16, verset 31. Le salut. Bien que ma mémoire commence à défaillir, je ne me souviens pas qu'on m'ait déjà parlé du salut, que ce soit à l'école ou à l'Église catholique. Et j'avoue qu'on me demandait à l'Église baptiste, avant ma conversion, si j'étais sauvée. J'y comprenais absolument rien, c'était du vrai chinois. Le salut, moi je ne connaissais pas ça, je n'avais jamais entendu parler. Je répondais toujours avec fierté que j'avais toujours eu le Seigneur dans ma vie, croyant fermement que ça suffisait, et même si ça me faisait peur, que je n'avais rien d'autre à faire que de subir le jugement de Dieu, comme tout le monde, après ma mort, en espérant qu'il tienne compte de mes bonnes actions. Et faites encore un saut, parce que j'ai découvert dans Éphésiens 2:9 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne se pète les bretelles. C'est le Seigneur qui sauve. J'ai appris avec raison que les bonnes œuvres ne sont souvent que le reflet de l'orgueil humain. D'ailleurs, il n'y a qu'à penser au cobon à larron, qui est mort sur la croix avec Jésus. Il a été un brigand toute sa vie, et pourtant Christ lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est dans Luc 23. C'est sa foi qui l'a sauvé, et non ses œuvres. Inutile de vous dire que j'ai fait un moyen saut lorsque j'ai découvert que je pouvais être sauvé avant ma mort. Bien que les Écritures soient très claires sur ce merveilleux plan du salut, j'étais tellement endoctrinée et poignée par mes sentiments que je n'arrivais pas à le croire. Je croyais que c'était vaniteux, moi, de se croire sauvé. Pourtant, quand on y pense, pourquoi Jésus se serait-il donné la peine de mourir à la croix pour nos péchés, sinon pour nous sauver? Sa mort aurait été vaine. Il serait mort pour rien. Qu'est-ce qu'il serait venu faire ici? Alors, un texte de la Bible m'a convaincu de mon salut. Ça, c'est dans Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est là que j'ai pris conscience que je traitais Jésus de menteur, puisque je doutais de sa parole. J'ai reconnu que j'étais pécheresse et que j'étais privée de la gloire de Dieu. C'est à Christ cette fois que je me suis adressée et à qui j'ai demandé pardon pour tout ce qu'il a subi à la croix pour moi. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas agenouillée, j'espère que je ne blesserai pas personne, devant un homme en soutane qui se donne souvent des commandements d'hommes et remplace Dieu par leur religion. Car celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Proverbe 17, 15. Puis le verset qui me plaît le plus, c'est Timothée 2, 5. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est à lui seul que j'ai demandé pardon, puis que j'ai aussi demandé de me sauver. J'ai accepté Christ comme mon unique sauveur, mon seul et unique, et je lui ai confié ma vie. Il est mon rocher, et je sais que je n'ai plus à craindre le jugement, puisque je suis justifié par la foi. Bref, mon cheminement vers le salut s'est fait de façon progressive et personne ne m'a tordu le bras. Petit à petit, tel un enfant, j'ai appris au compte-gouttes. Puis ça, je me souviens d'un de mes frères chrétiens. J'assistais régulièrement aux bergeries le mercredi soir, puis il me disait, « Faut que tu prennes ça tranquillement. C'est le petit lait, puis... » Vas-y, mollo, puis tu vas voir, ça va rentrer tranquillement. Puis il avait donc raison. C'est ça qui s'est passé aussi. Et c'est par la foi que j'ai découvert un Dieu sauveur et dont ne craint plus le jugement. Il n'y a rien à perdre et tout à gagner. J'ai l'assurance de mon salut. Et j'ai choisi, tout comme mes parents, Jessica, Bruce et Kate, de suivre la voie de l'Évangile, celle qui sauve, et non celle des religions. Je peux dire avec assurance que je marche non par la vue, mais par la foi. Je vous remercie de m'avoir écouté, et pour ceux qui ne connaissent pas Christ comme leur sauveur personnel, je prie le Seigneur, tout comme mon Père l'a fait pour moi, pour qu'il touche vos cœurs, afin de connaître son amour, la joie et la paix de lui appartenir. Et je vous souhaite la vie éternelle avec Christ. Merci.